Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Agnès Bonfillon. Et le Tout Info avec vous, Yann Boucherie, bonjour.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Tout d'abord, l'incroyable sang-froid d'une grand-mère de Décines, près de Lyon.
Oui, cette retraitée et son mari étaient en compagnie de leurs petits-enfants. C'était le 31 décembre à leur domicile, lorsqu'ils ont été braqués par un homme cagoulé et armé d'un fusil à pompe. Âgé de 70 ans, Daniel ne s'est pas laissé démonter.
D'abord, je me suis demandé ce qui arrivait. J'ai cru que c'était un de mes fils qui nous faisait une blague. Puis c'est après, quand j'ai vu qu'il pointait son arme sur mon petit-fils, l'aîné, de 13 ans, que j'ai quand même réalisé. J'ai pas paniqué, je suis restée en bas de l'escalier, moi j'ai pas bougé. Et c'est de là que je l'ai menacé de ne pas sortir vivant s'il touchait un cheveu de mes petits-enfants. Mais en fait, j'avais rien à la main, je pouvais rien lui faire, c'était une menace. J'ai dit ça, il avait le fusil contre mon mari à ce moment-là. Là, la moutarde m'est montée au nez, et alors là, j'ai hurlé. Je pouvais plus parler le lendemain matin. Qu'il fallait qu'il sorte de là immédiatement, qu'il n'était pas invité, qu'il n'avait rien à faire chez moi. Qu'il fallait qu'il parte, qu'il dégage. Et puis, il est parti, sans rien emmener. Rien. Mais même pas en courant, hein, il a pris la porte, tranquille, et il est descendu. Je pense qu'il a été surpris et que ça lui a coupé complètement les pattes, hein, comme on dit chez moi.
Daniel, 70 ans, qui ne s'en laisse pas compter au micro RTL de Frédéric Perruche.
Dans l'actualité ce matin, cette nouvelle frappe américaine en Irak.
Un raid aérien a visé tôt ce matin un commandant du Hashd, un mouvement paramilitaire pro-iranien au nord de Bagdad. Il y a des morts et des blessés selon la police irakienne, mais pas encore de bilan précis. Cette nouvelle attaque survient au lendemain du bombardement qui a coûté la vie au chef du Hashd et surtout au puissant général iranien Qassem Soleimani. L'Iran promet de venger la mort de celui qui était son militaire le plus populaire du Moyen-Orient. Les précisions de David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique.
C'est un événement majeur parce que c'était le chef de la force Al-Quds, c'est-à-dire le bras armé des gardiens de la Révolution. Et il était le grand architecte de la stratégie de projection en fait, de l'Iran au niveau régional. C'est lui qui était le maître d'œuvre, le marionnettiste, on va dire, même dans certains cas, puisque dernièrement encore, c'est lui qui organisait les discussions pour un nouveau Premier ministre en Irak avec toutes les difficultés qu'on connaît. Donc c'est un personnage de l'ombre, mais qui est d'une importance capitale. Et on l'a vu ces dernières années, quand il a soutenu le régime de Bachar el-Assad à partir de 2012, en structurant des milices pro-iraniennes notamment, qui ont sauvé la mise du régime de Bachar el-Assad avant l'intervention des Russes. Et donc dans tous les pays, ils bénéficient effectivement de relais régionaux qu'on appelle les proxys, qui sont les relais de l'Iran justement au Moyen-Orient.
David Rigoulet-Rose hier soir sur RTL avec Vincent Parisot. Donald Trump, lui, s'est exprimé cette nuit depuis son club de Mar-a-Lago en Floride où il est en vacances. Le président américain a affirmé, je cite, avoir agi pour arrêter une guerre, pas pour en commencer une, ni chercher un changement de régime à Téhéran, tout en précisant que Soleimani préparait, selon lui, des attaques imminentes contre des diplomates et des militaires américains. Une stratégie en tous les cas qui va à l'encontre de la position française concernant l'Iran. Christophe Decroix, Emmanuel Macron, depuis son arrivée à l'Élysée, prônait une diplomatie fondée sur le dialogue avec Téhéran.
Oui, depuis que Donald Trump a décidé en 2018 de rompre l'accord sur le nucléaire, Emmanuel Macron tente de recoller les morceaux. Il a d'abord cherché à convaincre les Iraniens de ne pas se retirer à leur tour du traité et proposer aux deux parties de compléter cet accord. Face au retour des sanctions américaines, Téhéran a toutefois repris progressivement le chemin du nucléaire sans dépasser jusqu'à présent certaines limites. Afin de maintenir un semblant de dialogue, le président français avait réussi un coup de maître. Alors qu'il présidait le G7 à Biarritz en août dernier, il avait fait venir sur la côte basque Mohamed Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères iranien. Il n'avait pas rencontré le président américain, mais la question avait été au cœur du sommet. Après cette première tentative, le président Macron a cru pouvoir transformer l'essai lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier. Il a tout tenté pour que les présidents Trump et Rouhani, qui étaient tous les deux à New York pour l'occasion, se rencontrent ou au moins se parlent au téléphone. Sans succès. Après la frappe d'hier, le président français voit ses efforts ruinés et ne peut que constater le risque d'escalade.
Les précisions de Christophe Decroix, Emmanuel Macron qui a appelé hier Vladimir Poutine. Les deux hommes ont dit s'inquiéter du risque de sérieusement aggraver la situation au Moyen-Orient. Pékin et Londres ont appelé à la désescalade. En Australie, situation de plus en plus catastrophique avec la propagation des immenses feux de forêt. L'état d'urgence a été décrété dans le sud-est du pays et plus de 100 000 personnes ont été évacuées. Le Premier ministre a ordonné le renfort de 3 000 militaires réservistes.
7h35 sur RTL en France. France, les autorités excluent pour le moment la motivation terroriste dans l'attaque au couteau de Villejuif.
L'assaillant a tué un homme de 56 ans dans le parc des Hautes Bruyères de cette commune du Val-de-Marne. Il a blessé deux autres personnes, dont une grièvement, avant de se diriger vers un centre commercial de L'Haÿ-les-Roses. Il a été abattu par la police non loin du bâtiment où les clients ont été bloqués de longues minutes. Parmi eux, Roger, qui s'est confié au micro RTL d'Esteban Pinel.
On nous a dit qu'on devait rester confiné dans le magasin parce qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Avec le temps, puisqu'on est resté quand même plus de deux heures dans le magasin, donc ça a commencé un peu à s'énerver, ça a commencé un peu à hausser la voix parce que tout le monde voulait un peu sortir. Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'effectivement, il fallait qu'ils fassent tous les contrôles d'usage avant de nous laisser sortir. Et ça a duré un certain temps. Donc finalement, ils ont commencé à laisser sortir les gens vers 16h, 16h10, par deux, par trois, en laissant les voitures. Il y a des gens qui sont plus ou moins émotifs, donc il y a certaines personnes qui se sentaient un peu mal. Il n'y a pas eu vraiment de panique, sauf que bon, il y a eu un peu de peur pour certaines personnes qui sont un peu plus sensibles.
Et selon les premiers éléments de l'enquête, âgé de 22 ans, l'assaillant était atteint de troubles psychiatriques et avait été interné en établissement spécialisé. Il était connu pour des faits de droit commun, mais inconnu des services de renseignement. En bref, 34e jour de grève dans les transports, mais une nette amélioration ce week-end pour les retours des vacances de Noël. La SNCF prévoit aujourd'hui 7 TGV sur 10, un TER sur 2, un Intercité sur 3 et un Transilien sur 5. En raison de ce mouvement de grève, l'Université Paris 1 a, elle, décidé de reporter ses partiels d'une semaine. Ils commenceront donc le 13 janvier.
Les sports, Yann, et un grand week-end de football avec les 32e finale de la Coupe de France.
Oui, les clubs de Ligue 1 entrent en lice et la hiérarchie a été respectée pour le premier d'entre eux. Bordeaux s'est qualifié hier soir contre Le Mans 2-0. Suite des rencontres aujourd'hui avec à 13h le match entre Niort, club de Ligue 2, et la JS Saint-Pierroise, club de Régional 1. La formation de Saint-Pierre à La Réunion est le dernier représentant de l'Outre-mer. Son entraîneur Lucet Arayapin, joint pour RTL par Nicolas Georgerot.
C'est une opportunité pour nous. On joue une équipe pro. Il y a 4 divisions d'écart. On espère bien figurer dans cette 32e de finale. On est venu pour créer l'extra, mais après, ça va pas être facile. Hein. C'est notre travail qui nous a emmenés là. On s'estime qu'on a bien bossé. On a fait une saison exceptionnelle. Et il y a des Réunionnais qui viendront au match. C'est de bien représenter.
Ça fait 30 ans qu'un club ultramarin n'a pas passé les 32e de finale. Vous portez cet espoir-là aussi?
On va écrire l'histoire, mais après... Ça reste un match. On veut juste que ce soit un beau match, que les joueurs soient conscients de l'enjeu et puis que le public réunionnais, les réunionnais de l'Hexagone, viennent nous supporter.
Lucet Arayapin avec Nicolas Georgerot pour RTL. Les 32e de finale de la Coupe à vivre dans les flashs tout au long de la journée avec les correspondants, les envoyés spéciaux de RTL. En football toujours, le club de Guingamp lui est en deuil. L'En Avant a annoncé hier soir le décès de son joueur Nathaël Julan. Le jeune attaquant s'est tué dans un accident de la route après avoir perdu le contrôle de son véhicule. Il était âgé de 23 ans. L'Euroleague de basket et la logique respectée hier soir à l'Astrobal. L'Asvel a été dominé par le Real Madrid 87-77. Enfin, le handball. Les Bleus ont écrasé la Serbie 40-26 hier à Metz dans le premier de leurs deux matchs de préparation à l'Euro qui commence dans une semaine en Norvège. Le deuxième match amical, c'est demain à Bercy contre le Danemark, champion olympique et champion du monde en titre.
Merci beaucoup Yann et à tout à l'heure, à 8h30. Hein, vous revenez à 8h30,
absolument.
Super.
Et dans un instant, on a rendez-vous avec RTL Autoradio, Agnès.
Oui, Christophe Brou nous dira tout sur les nouvelles mesures concernant les conducteurs en ce début de nouvelle année.
Bon réveil, 7h39.
Agnès Bonfillon.
RTL Matin jusqu'à 9h15.